Le dernier amour, 7. Vanine, la gardeuse de chèvres, avait grandi. Elle était devenue une fort jolie fille blonde, bien prise dans sa taille élancée, très gracieuse avec ses longs bras ronds et minces comme ceux d'une figure étrusque. On disait dans le pays que c'était une fille illégitime du vieux Tonino Monti, ce qui était assez invraisemblable, mais non impossible. Elle avait bien la fraîcheur de ton de la race germanique à laquelle appartenait sa mère. Mais l'élégance et la grâce italienne se retrouvaient dans ses mouvements et dans son accent doux et sonore. La supposition d'une sorte de parenté mystérieuse avec elle ne déplaisait pas à Tonino. Jean s'en était expliqué avec moi par un « peut-être » laconique et insouciant. Il était le parrain de cet enfant et l'avait recueilli, toute petite, par charité. Félicie, qui n'entendait pas raillerie sur les mœurs de son grand-père, l'avait longtemps tenu à distance pour ne point encourager les commentaires. Aussi, l'éducation de Vanina était-elle fort négligée et ses manières très rustiques. Pourtant, depuis 2 ans, son intelligence s'était développée dans les fréquents entretiens qu'elle eut avec Tonino, et on l'avait vue, de jour en jour, devenir plus correcte dans sa tenue et dans son langage. Ces entretiens l'avaient rendue fort distraite. Félicie avait surveillé sa conduite, et à la suite de quelques réprimandes, la jeune fille, craignant d'être chassée, s'était mise à l'ouvrage avec ardeur. On était alors très content d'elle. Elle se rendait utile à la ferme, précieuse même dans la maison, et sa maîtresse lui témoignait de l'amitié, surtout depuis que l'absence de Tonino avait coupé court aux soupçons que pouvait faire naître leur intimité. Vanina, partie dès l'aube pour faire paître son troupeau sur le versant opposé de la colline, ne savait rien de l'arrivée inattendue de Tonino. Au moment où nous venions de nous mettre à table pour le dîner, elle entra dans la salle, étouffa un cri, eut un vertige, devint pâle et se laissa tomber sur une chaise. Cette joie naïve, aussitôt réprimée, mais suivie d'une rougeur révélatrice, fit sourire Tonino. Il alla vers elle et l'embrassa sans façon en la tutoyant, comme par le passé. Au bout d'un instant, il se leva pour l'aider à nous servir, Félicie et moi. Et à mesure que le repas se prolongeait, nous étions de plus en plus mal servis. Il arriva même que nous ne le fûmes plus du tout, tant ces deux jeunes gens chuchotaient avec entrain dans la cuisine. Félicie dut appeler la Vanina et l'avertir. Mais elle ne la gronda point et ne s'en prit qu'à Tonino, à qui elle ordonna de se rasseoir avec nous et d'être plus convenable. « Si tu commences ainsi, lui dit-elle, je vois bien que je serai aussi mécontente de toi que je l'étais l'an passé. Tu as failli me faire renvoyer cette petite. Je la croyais coquette et dévergondée. À présent, je sais qu'elle est bonne et sage. Mais elle est simple, et si tu cherches à la détourner de son devoir, c'est toi que je renverrai. » « Encore cette menace ! » répondit Tonino avec un peu d'arrogance tempérée par l'enjouement. « Je vois bien qu'il faudra s'y habituer et justifier toutes mes actions et toutes mes paroles. Sachez donc, cousine, que j'aime Vanina de tout mon cœur. Je vous ai dit non dans le temps. C'est que je ne croyais pas l'aimer, mais j'ai pensé à elle tout le temps de mon absence. Et à présent que je la retrouve, si jolie, si proprette, si charmante fille, et m'aimant toujours, comme son frère. Aujourd'hui, surtout que je sens que vous ne m'aimez plus comme votre fils, je me dis que l'amitié d'une chevrière vaut mieux que rien, et je fais cas de ce que le ciel m'envoie pour me consoler. » « Aime-la, reprit Félicie. Tu ne peux pas mieux placer ton amitié, mais si tu lui parles d'amour. Vous me renverrez, vous l'avez déjà dit. Eh bien, je vous réponds que je lui parlerai d'amour et que vous ne me renverrez pas.
Tu comptes l'épouser alors ?
Oui, ma cousine, avec votre permission et celle de Monsieur Sylvestre.
Et c'est de cela que tu lui parles à voix basse depuis une heure ?
Non, ma cousine, je ne lui parle encore que d'amitié. Il me faut votre permission pour lui parler mariage. Me la donnez-vous ?
Moi ? Oui, de premier mouvement. Mais je veux l'avis de Monsieur Sylvestre, et tu auras la bonté de l'attendre.
Je l'attendrai, à moins qu'il ne veuille avoir la bonté, lui, de me la donner tout de suite.
Mon cher enfant, lui dis-je, je n'ai que des conseils d'amitié paternelle à vous donner. Vous me les permettez et j'en suis reconnaissant. Me permettez-vous aussi de vous faire quelques questions ?
Faites, répondit-il en m'embrassant.
Eh bien, repris-je, ne pensez-vous pas que vous êtes bien jeune pour vous marier ?
Je suis jeune, en effet, mais la Vanina est jeune aussi. J'ai 22 ans, elle en a 16. Je suis assez raisonnable pour elle. Si je l'étais davantage, elle aurait le droit de trouver que je le suis trop.
Mais le mariage est une chose grave.
Pour vous et pour ma cousine, oui, très grave. Mais non pour des jeunes gens qui ne sont rien, qui ne possèdent rien, dont l'avenir ressemblera beaucoup au passé, et qui n'ont pas l'habitude de se creuser la cervelle pour résoudre des problèmes. Nous travaillerons, nous nous aimerons, nous ne réfléchirons guère, et nous serons très heureux.
Félicie voulut faire une objection. Il ne lui en laissa pas le temps.
« Oh, vous, ma cousine, lui dit-il, vous n'y entendez rien, permettez-moi de vous le dire. Vous en cherchez trop long pour moi. Vous m'avez fait de grandes morales autrefois, et je vous écoutais, tout confie en Dieu et en vous. C'était l'âge où vous vouliez faire de moi quelque chose de très bien, où vous rêviez pour moi dans l'avenir un mariage bourgeois. Mais j'ai réfléchi. Depuis que vous ne vous souciez plus de moi, je me suis dit qu'épouser une riche fermière ou une chevrière sans le sou, c'était toujours dérogé pour un gentilhomme, et qu'il me fallait trouver une princesse ou me contenter d'une bergère. Or, la princesse ne me tombera certainement pas du ciel. Autant vous donc choisir la bergère qui me plaira. Et celle-ci me plaît. Donnez-la-moi. J'irai vivre avec elle sur la montagne. Et avant peu, je vous réponds que vous aurez beaucoup de chevreaux superbes et plusieurs petits cousins très gentils, que vous aimerez peut-être comme vous m'avez aimé, du temps que j'étais gentil.
J'écoutais Tonino en souriant. Il y avait quelque chose de si sympathique dans sa bonne humeur. Quant à Félicie, elle l'écoutait froidement et comme mécontente de sa légèreté.
« Vous vous fiez à lui, me dit-elle. Vous avez peut-être tort. C'est un garçon qui rit de tout. Je n'ai pas bonne idée de ses projets sur la Vanina. »
« Certes, quand il s'agit de moi, reprit Tonino, vous doutez de tout, même de mon honneur.
« Mais vous, Monsieur Sylvestre ?»«
Moi, j'y crois, votre honneur. Reconnaissez-vous qu'il est engagé du moment que vous demandez l'autorisation d'aimer une jeune fille que votre cousine a le devoir de protéger ?»«
Si je vous dis oui, serez-vous tranquille ?»«
Je serai tranquille si vous dites oui. »«
Eh bien, je dis oui, et je jure de respecter la Vanina jusqu'à ce qu'elle soit ma femme. »
Il tint parole. Et tout en montrant à cette jeune fille un attachement très vif, il ne mit plus sur son front aucune rougeur. De craintive et souvent troublée qu'elle était, la Vanina devint, sinon calme, du moins souriante et comme ravie dans la pensée d'un légitime triomphe. Il me parut évident que Tonino lui avait promis de l'épouser, qu'elle était sûre de lui et fière de l'amour qu'elle lui inspirait. C'était là de quoi effacer le pénible souvenir de ma jalousie. Et il se fut effacé entièrement si Félicie eût franchement accepté l'idée de marier ses enfants en même temps que nous nous marierions nous-mêmes. Mais elle persistait à ne pas croire Tonino sérieux et elle lui parlait avec une sorte d'aigreur railleuse. Je commençais à la trouver injuste. Tonino s'en plaignait, mais avec cette extrême douceur qui était le fond de son caractère et qui rendait son commerce agréable et séduisant. Il ne connaissait ni l'emportement ni la rancune. Il jetait sur toute chose un rayon de gaieté et il me montrait une affection dont j'étais véritablement touchée. C'était à moi qu'il demandait raison des préventions de Félicie, et toujours avec une aménité caressante qui m'obligeait à le justifier et à les réconcilier sans cesse. « J'ai bien besoin que vous m'aimiez, » me disait-il alors, « car, vous le voyez, elle est froide et dédaigneuse. Son cœur m'est fermé depuis que vous y régnez, et c'est justice. Je ne suis rien qu'un étourdi et un ignorant, tandis que vous êtes un homme et presque un ange. » Aussi, je me console de toutes les rigueurs de ma cousine avec une bonne parole de vous. Vous pouvez faire de moi tout ce que vous voudrez. Un ami, un chien, un esclave. Vous êtes doux, je le suis aussi. Entre nous, il n'y a besoin que d'un regard et d'un sourire. Votre commandement me rend heureux. J'ai du plaisir à vivre de vous et par vous. Sans cela, j'aurais beaucoup de chagrin. Mais je me dis que Félicie est comme cela, elle ne peut aimer qu'une personne à la fois. Quand j'étais son fils, il ne fallait pas lui parler de mariage. À présent qu'elle a mis son âme dans le mariage, il ne faut plus lui rappeler que j'ai été son fils. Qu'est-ce que cela me fait, après tout, si vous êtes mon père? Je m'habituerai à ne voir dans Félicie que ma cousine, à ne rien regretter du passé, à me dire ce que je me dis déjà. C'est que j'ai gagné au change, car vous valez mieux qu'elle et que le monde entier. « Même mieux que Vanina ?» lui dis-je en riant. « J'adore Vanina, » répondait-il. « Mais si vous me défendiez de songer à elle, je briserais mon cœur pour vous obéir. Je me dirais que vous ne pouvez pas avoir tort, que vous voyez clair dans les âmes comme Dieu y voit, et que c'est pour mon bonheur que vous me rendez malheureux. » Je m'attachai à pénétrer la nature de son affection pour Vanina. Il me sembla que c'était une affection vraie, sinon élevée. « Elle n'est pas bien fine, la chevrière, » me disait-il. « Sans être sotte, elle est simple. Elle comprend tout ce qu'on lui dit. Elle le comprend même trop, car elle le croit sans réserve. Si vous lui disiez que par des paroles magiques je peux la soutenir en l'air, elle se jetterait du haut de la montagne, la tête la première. C'est bête, cela, mais c'est beau, et je ne désire point qu'on la rende savante et questionneuse. Je la trouve bien comme elle est, et belle selon mon goût. Je n'aime que les blondes, peut-être parce que je suis trop brun. Je suis amoureux fou de cette peau blanche et de ses yeux d'azur. J'aimerais ma femme avec les sens avant tout, je vous en avertis. Ne me chapitrez pas là-dessus. Je suis un jeune homme et je ne me suis jamais assouvi. Si vous me demandiez pourquoi, je serais embarrassé de vous le dire. Je suis moqueur et par conséquent difficile, peut-être un peu trop recherché pour un homme dans ma position. Je me sens de haute race, que voulez-vous? Les grosses manières me blessent par leur côté risible, et quand la lourdeur de l'esprit perce sous la beauté, je ne la vois plus belle. Vanina a quelque chose de noble dans le sang. Je n'en suis pas sûre, mais je le crois. Je n'en sais rien, mais je le sens d'une manière vague. Elle fait avec grâce les choses les plus prosaïques. Mon sens artiste n'est jamais choqué quand je la regarde, et je me prends à la désirer follement. Mais je vous ai donné ma parole, et je la respecte. Pourquoi non? Cette petite lutte que je soutiens contre moi-même aiguise mon amour et le rend plus ardent encore. Je vous réponds que nous aurons, elle et moi, une belle et longue lune de miel. » Et il ajoutait avec un franc rire, « Ami, je vous en souhaite une pareille. » La liberté d'esprit, à la fois candide et cynique, avec laquelle le jeune homme me parlait désormais de mon prochain mariage avec sa mère adoptive, me troublait bien un peu quelquefois. Tonino manquait de ce je ne sais quoi de voilé et de profond qui caractérise les âmes vraiment émues. Il y avait en lui comme une soudaine sécheresse sceptique dont il ne paraissait pas se rendre compte, mais qui sautait à pieds joints sur le respect de soi et des autres. Il était impossible de le lui faire comprendre, car bien plus que Félicie, il était incapable d'écouter avec fruit et de saisir le vrai sens des mots dans un certain ordre d'idées. Un réalisme brutal apparaissait tout à coup sous cette gentillesse d'expansion. Et il me faisait rougir, moi, homme de 50 ans, quand je le laissais se livrer à ses rêves de volupté. Ses amours d'enfant, qui côtoyaient pour ainsi dire mes austères amours avec Félicie, avaient peut-être la rude vérité de l'âge d'or, et parfois je me demandais si l'amour jeune n'était pas le seul légitime, si cette pudeur recherchée, que ne connaissent pas les mœurs rustiques, n'était pas un résultat de la corruption sociale. Enfin, si, à force de vouloir relever ma fiancée par mon respect, je ne lui ôtais pas ce que son cœur avait de puissance et de spontanéité. Un matin, Tonino vint me trouver embarrassé plutôt qu'ému. « J'accours me confesser, » dit-il. « Il faut me laisser épouser tout de suite la Vanina. Nous ne pouvons plus attendre. Que ma cousine ne veuille pas de fête dans sa maison avant la fin du deuil qu'elle s'est imposé, c'est bien, je respecte cela. Mais nous pouvons bien nous marier sans violon, la fillette et moi. S'il faut un festin et un bal champêtre, on remettra ça au jour de vos noces. » « Voyons, enfant, répondis-je, est-ce que vous avez manqué à votre parole ? Non, mais je sens que je ne peux plus la tenir. J'ai pris quelques baisers à ma fiancée, chaque jour un peu plus prolongé que ceux de la veille. Et que voulez-vous, elle me les a rendus. Il faut me délier de mon serment, ou me faire vite prononcer le serment conjugal. » « Je vais en parler à votre cousine. » « Oui, mais attendez, il ne faut pas la consulter, il faut lui dire que vous le voulez. » « Je ne lui parle pas sur ce ton-là, mon cher enfant. » « Vous avez tort, vous ne saurez jamais la prendre si vous ne lui parlez pas avec autorité. Elle ne se rend pas aux raisons, elle aime qu'on la commande. » « Permettez-moi de croire que je la juge et la connais mieux. » « Mais je ne crois pas, moi. Mais cela vous regarde en général. Pour cette affaire-ci, qui m'intéresse et me concerne, ne m'exposez pas, je vous en prie, à être forcée de me parjurer envers vous ou de désobéir à ma cousine. Elle ne voit déjà pas d'un si bon œil mon amour pour la Vanina. » « Pourquoi supposez-vous cela ? Parce qu'elle est jalouse de moi. » Je crus avoir mal entendu, mais Tonino, impassible, répéta ce qu'il venait de dire. « Oui, oui, elle est jalouse de moi, monsieur Sylvestre. Cela vous étonne ?»« Oui, certes, » répondis-je en m'efforçant de cacher mon trouble. « Moi, je suis étonné de votre étonnement, » reprit Tonino sans se déconcerter. « Vous voyez bien que vous ne la connaissez pas. Ma cousine est née jalouse, et si je suis devenu jaloux de son amitié, elle a tort de me le reprocher. C'est elle qui m'a donné l'exemple. Quand j'étais petit, elle ne pouvait souffrir qu'on me fît plus d'amitié qu'elle ne m'en faisait, et quelquefois elle me disait « Personne ne m'aime, tu dois donc m'aimer pour tout le monde, et si tu me préférais quelqu'un, ce serait me tuer. » Elle a oublié cela, parce qu'elle ne m'a plus aimé à mesure que je grandissais. Mais l'habitude lui est restée de vouloir régner seule sur mes volontés. Elle est despote, comme toutes les personnes ombrageuses. Quand elle donne un ordre, si je m'attarde un peu pour rendre un petit service à la Vanina, elle ne s'emporte plus, vous l'avez corrigée de la colère. Elle nous boude et nous parle froidement pendant 3 jours. Jalouse de son autorité, jalouse de la liberté et du bonheur des autres. Voilà ce qu'elle est et ce qu'elle a toujours été depuis 15 ans. C'est la conséquence de sa faute.
« De sa faute ? » m'écriai-je. « Est-ce que vous osez prononcer ce mot-là, vous, Tonino ? Est-ce que vous savez si votre mère adoptive a commis une faute ?»«
Mais comment ne le saurais-je pas ? J'ai bercé son enfant. On me disait alors qu'elle était veuve. C'était bien inutile, je ne songeais pas à questionner. Mais plus tard, quand j'ai vécu ici, il m'a bien fallu savoir, comme tout le monde, qu'elle n'avait jamais eu de mari.
Vous eussiez dû ne la prendre jamais, ne pas l'entendre, ne pas le croire. Et aujourd'hui encore, vous devriez parler comme si vous ne le saviez pas.
Ah ! Permettez-moi de vous dire, monsieur Sylvestre, vous exagérez toutes ces choses-là. Vous les jugez en hommes du grand monde, apparemment. Nous autres paysans, nous n'y voyons rien de si grave. Nous disons « c'est un malheur ». Et ça nous paraît si facile à pardonner que nous ne nous faisons pas un devoir de l'ignorer et un mérite de le taire.
Et comme je me taisais, moi, attristé et blessé au fond de l'âme, il reprit.
« Monsieur Sylvestre, je suis désolé de vous avoir fait de la peine, mais est-ce ma faute ? Je suis un gardeur de vaches, et je ne peux pas sentir et penser comme vous, qui êtes un aristocrate et un philosophe. Tenez, vous n'êtes pas ici dans le monde qu'il vous faudrait. Jamais vous ne vous habituerez à la rudesse de nos pensées et de nos paroles. Et Félicie a beau vouloir élever son esprit et ses manières pour arriver jusqu'à vous, elle vous blessera toujours par quelque endroit. Car si elle est la petite fille du comte Del Monte, elle n'en est pas moins la fille du père Morgeron, qui battait sa femme et s'enivrait avec de l'eau-de-vie quand il était de mauvaise humeur. Et puis, elle a eu ce malheur dont nous parlions, dont vous ne voulez pas qu'on vous parle, et ça lui a aigri le cœur. Vous la guérirez, je ne dis pas non, mais ce ne sera pas sans peine, et vous aurez plus d'un gravier dans votre pain quotidien. Vous avez du savoir, du courage et un grand esprit, vous vous en servirez, c'est affaire à vous. Mais il faudra passer sur beaucoup d'ornières et de cailloux avec des gens mal élevés comme nous autres. Pardonnez-moi d'avoir réveillé un souvenir qui vous déplaît et de vous dire que ma cousine n'aime pas la Vanina. La Vanina n'a pas eu de malheur, elle. Je ne veux pas qu'elle en ait par ma faute. Faites donc que ma cousine nous marie. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Ne le prenez pas en mauvaise part. J'aimerais mieux mourir que de vous offenser.
C'est ainsi qu'avec son ingénuité pénétrante et son prétendu gros bon sens, si délié, Tonino me torturait. J'en revenais à me demander s'il n'avait pas l'âme profondément perfide, s'il n'amenait pas habilement toutes ses explications, en apparence fortuites, pour me punir d'avoir inspiré l'amour auquel il avait prétendu, qu'il avait obtenu peut-être avant moi, et que je lui avais ravi. Devant cette atroce supposition, la loyauté de mon âme se révoltait et criait « Non, c'est impossible !» Quelle autre énigme, alors, me présentait l'attitude de Félicie ? Était-ce pour me punir de mes soupçons qu'elle brisait avec tant d'opiniâtreté le pacte de famille où Tonino avait sa place marquée, légitime, pour ainsi dire inaliénable ? Elle semblait vouloir se rendre coupable envers lui, envers moi et envers elle-même, pour m'apprendre qu'il ne fallait pas jouer avec son orgueil et la mettre au défi de se justifier. Et comme si tout devait se flétrir et s'empoisonner en nous et autour de nous, voilà que Tonino, l'objet de ses dédains affectés, se plaignait à moi, se vantait peut-être de lui inspirer de la jalousie. Il y avait des jours où je croyais voir clair dans toute cette intrigue. Tonino feignait d'aimer la Vanina pour irriter Félicie et l'attirer dans ses bras lascifs et incestueux. La Vanina elle-même se prêtait à ce jeu infâme pour plaire à son amant et contraindre ensuite Félicie à payer son silence vis-à-vis de moi. Félicie, en proie à je ne sais quel fatal vertige, était d'autant plus prête à tomber dans le piège qu'elle s'en éloignait avec terreur, ou le bravait avec audace. Elle n'aimait ni moi, ni Tonino. Elle était tout orgueil froissé, tout dépit contre la destinée, tout besoin de vengeance ou de réhabilitation. Il lui plaisait fort de devenir ma femme, affaire de vanité. Il lui plaisait peut-être mieux d'avoir Tonino pour esclave, affaire de sens. Je luttais contre ce cauchemar. Il me poursuivait dans mes rêves. Mais, au soleil levant,
si j'entendais les sons graves et purs du violon de Crémone vibrant sous la noble inspiration de Félicie, ou si je voyais passer la jeune chevrière allant au champ avec ses yeux bleus de ciel et son grand geste harmonieux pour indiquer aux chiens de rassembler le troupeau, ou bien si Tonino, levé avant moi et par moi cherché avec angoisse, se laissait surprendre à genoux dans la litière fraîche, tandis que la Vanina tourmentait, en riant dans sa main, les touffes épaisses de la noire chevelure du jeune homme, je me reprochais ma folie. Je croyais sentir un souffle pur, venu des plus pures régions de cette Arcadie, passer sur mon front brûlant. Et je ne sais quelle voix légère, comme des brises, frémissait à mon oreille pour rire de mes idées sombres et de mon cerveau malade. Ma souffrance aidait à ma souffrance, et j'empirais mon mal en agissant sous l'impression de mon mal. Quand j'invitais Félicie à hâter le mariage de Tonino, ma voix tremblait sans doute, et si mes paroles ne furent pas dites d'un ton d'autorité, peut-être mes regards trahirent-ils le désir que j'avais de ne pas rencontrer de résistance. Il me sembla que Félicie frissonnait de colère ou de crainte, et qu'elle me répondait oui avec une répugnance secrète. Je lui demandais étourdiment pourquoi elle hésitait. « Je n'hésite pas, » répondit-elle. « À quoi pensez-vous de me dire cela ?» Je ne pus répondre. « Vous êtes préoccupée, » reprit-elle. Je mentis en donnant un autre motif, un motif quelconque à ma préoccupation. Elle fixa le mariage de Tonino au dernier jour du mois. Nous étions au 15 avril, en plein printemps. La floraison hâtive des arbres à fruits était exubérante. Tout chantait, tout brillait dans la campagne. Vanina, enivrée par les regards et les sourires de son jeune fiancé, était comme étouffée de bonheur. Lui, sans perdre l'habitude de son petit sang-froid doucement railleur, avait dans la poitrine des respirations étranges, comme des oppressions d'impatience contenue ou des élans de joie mystérieuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de les trouver beaux dans la naïveté de leur mutuel désir. Félicie était tranquille, résolue, impénétrable. Elle s'occupait du trousseau des mariés avec sa générosité ordinaire et des soins tout maternels. Vanina, honteuse de la voir coudre, marquer et repasser tout le jour pour elle, venait l'aider. Mais, malgré elle, c'était toujours à quelque harde de son futur qu'elle travaillait avec ardeur et intelligence. De sa propre toilette, elle se souciait à peine, et Félicie était obligée de corriger ses bévues. Elle le faisait avec patience, parlant peu, souriant à peine, affairée, absorbée, pensant à quelque chose qui ne s'exprimait pas et qui semblait impossible à exprimer. Enfin, le grand jour arriva. La mariée, éblouissante de fraîcheur et de parure, vint avec Tonino demander à genoux la bénédiction de la patronne et la mienne. « Toi, lui dit Félicie en l'embrassant, je te bénis de tout mon cœur. Je n'ai pas de reproche à te faire. Tu es une enfant sans malice et sans volonté. Mais je fais un effort pour bénir ton mari. Il aurait dû attendre la fin du deuil de cette maison où mon frère l'avait reçu et traité comme son fils. Les raisons qu'il a données pour se dispenser de le pleurer une année entière sont des raisons lâches, des raisons d'égoïstes. J'y ai cédé à cause de toi, par pitié de ton inexpérience et de ta faiblesse. Je n'attendais pas de toi de grandes vertus. Je n'avais pas le droit de t'en demander, ne t'ayant pas élevé avec autant de soin que j'aurais peut-être dû le faire. Mais lui... Enfin, n'en parlons plus. Aimez-vous et soyez heureux. » Je trouvais le discours de Félicie gratuitement amer et peu convenable pour les oreilles d'une jeune fille qu'elle devait supposer pure. Je ne sais si la Vanina le comprit. Elle rougit beaucoup et pleura. Tonino lui serra vivement la main sans répondre un mot à Félicie. Et quand elle les eut embrassés tous deux, il emmena sa fiancée en lui parlant à l'oreille, comme s'il la consolait des sévérités de la patronne, et comme s'il lui disait « Tu sais qu'elle est jalouse, mais sois tranquille, je te protégerai contre elle. »
Est-ce cela qu'il lui disait, ou cela se passait-il dans mon imagination?
Je regardais Félicie. Elle était pâle, et son œil courroucé suivait le jeune couple, sans rien voir autre chose.
Je ne me trompais donc pas. Tonino ne s'était donc pas trompé. Elle était jalouse. Si jalouse qu'elle ne songeait plus à me le cacher. Mais quel genre de jalousie était-ce? Je voulus le savoir. Ma langue, enchaînée par la délicatesse, rompit ses liens. Je fus sévère, terrible peut-être. Je blâmais ce qui venait de se passer, je questionnais durement. Félicie trembla, balbutia, faillit s'évanouir. Je fus impitoyable. Elle prit tout à coup son parti, comme elle le prenait toujours quand on l'y forçait.
« Eh bien oui, dit-elle, je suis jalouse de cette jeunesse, de cette innocence, de cette virginité qui est pour moi comme un vivant reproche. Ce n'est pas de Tonino, c'est de vous que je suis jalouse quand je regarde la Vanina. Je la trouve trop heureuse d'être aimée avec ardeur par ce jeune homme et contemplée par vous avec une sorte de respect, comme si elle méritait votre estime. Qu'a-t-elle fait pour vous paraître sainte? Sans moi, sans mes menaces, Tonino eut depuis longtemps flétri cette pureté de hasard. Et c'est à moi qu'elle doit de pouvoir mettre aujourd'hui le bouton d'oranger à sa ceinture. Comment voulez-vous que je ne sois pas irritée de l'air de triomphe avec lequel Tonino va la conduire à l'église? Il fallait bien rabattre un peu leur orgueil, et vous me blâmez de l'avoir essayé. C'est me dire que je n'ai pas le droit de faire la morale aux autres. C'est m'humilier cruellement. Et avec cela, vous me demandez si je regrette que Tonino soit heureux, comme si j'étais une mauvaise mère, ou comme si... Non, je ne veux pas aller jusqu'au fond de votre pensée. Il me semble que j'y trouverai toujours suspendu sur ma pauvre tête ce mépris qui doit me tuer. »
Elle pleura amèrement. Je dus la calmer, la rassurer, la consoler. Tonino m'appelait avec impatience. On nous attendait pour partir. Il entra et vit Félicie en larmes. Ses yeux expressifs se portèrent sur moi. Il me disait clairement « Je le savais bien que vous ne pouviez pas être heureux l'un par l'autre. » J'entraînais Félicie, honteux et irrité de sa figure souffrante, encore sillonnée de larmes. La Vanina la regardait timidement, avec un mélange de compassion, de respect et de fierté, comme si elle eût été tentée de lui demander pardon de l'avoir emporté sur elle. Quand le prêtre eut béni leur union, les mariés, qui n'avaient eu pour escorte que nous, les témoins et les gens de la maison, nous remercièrent et nous demandèrent la permission d'aller passer 3 jours chez la mère de Vanina, qui demeurait dans la montagne. Félicie acquiesça froidement à ce désir et leur dit à peine adieu. Ils partirent seuls, se tenant par le bras, mais d'une étreinte si souple et si forte qu'ils semblaient ne faire qu'un. Tonino se retourna pour m'envoyer un baiser, et il me montra le soleil de mai, comme pour le prendre à témoin de son droit à l'ivresse de la vie. J'essayai de distraire Félicie de sa tristesse. « Ces enfants sont des ingrats, » me dit-elle. « J'avoue que je ne m'attendais pas à les voir quitter la maison aujourd'hui. »
« Ce n'est pas quitter la maison que de s'absenter 3 jours. »«
Ils s'absentent tout à fait, soyez-en sûrs. » Ils ont formé en cachette de nous quelques projets d'établissement. La mère de Vanina est une femme de mauvaise vie, et ce n'est pas chez elle que Tonino, à moins qu'il n'ait perdu l'esprit, irait abriter sa lune de miel.
Ils ont pris pourtant le chemin de sa demeure.
Ils vont la voir pour la consoler de l'humiliation que je lui ai infligée en lui défendant d'assister au mariage.
C'est le devoir de Vanina. « Quelle que soit sa mère,
ah, vous êtes indulgent pour de plus grandes pécheresses que moi. »«
Je ne suis pas indulgent pour cela, mais vous devriez l'être davantage pour ces jeunes gens. Ils ont besoin d'être heureux, sans arrière-pensée, sans lutte contre vous, qui leur reprochez d'être égoïste. ils vont cacher leur ivresse dans quelque chalet où ils oublieront tout.
Même la mort du pauvre Jean ?
Eh bien, oui, c'est leur droit, après tout. C'est leur devoir, peut-être. Dieu a fait de l'amour une loi si grande et si puissante qu'il faut savoir la subir sans songer ni au passé ni à l'avenir. Les oiseaux qui bâtissent leur nid aujourd'hui se demandent-ils si l'orage l'emportera demain ? Respectons donc le caprice de nos enfants. Et puisqu'ils paraissent désirer l'isolement, songez à leur préparer pour l'été un gîte confortable dans la montagne. N'était-ce pas l'intention de Tonino et la vôtre ? N'avez-vous rien décidé encore à cet égard ?
Rien, répondit Félicie.
Pourquoi ? J'attendais votre volonté. Si j'avais décidé quelque chose sans vous, vous auriez pu le mal interpréter.
Je parvins à dissiper son amertume en la distrayant par des projets. Le raisonnement, qui pendant nos semaines et nos mois de tête-à-tête avait paru la convaincre, perdait toute action sur elle depuis que j'avais involontairement blessé son cœur et son amour-propre. Elle était comme anéantie moralement. On ne la réveillait qu'en la mettant aux prises avec les devoirs, les difficultés et les amusements de la vie matérielle. Elle y portait ce dévouement sans bornes qui était le grand côté de sa nature énergique. Dès que je lui eus dit qu'il fallait assurer la liberté, la dignité et le bien-être du jeune couple,
« Eh, sans doute !» répondit-elle.
« J'y ai bien songé, mais j'attendais votre encouragement.
Au reste, tout est prêt. La grande laiterie du Verwald que j'ai donnée en dot à Tonino n'est pas à fin de bail. Mais je sais que pour une faible indemnité, le fermier nous la laisserait occuper tout de suite. Il y faut des réparations. J'ai le bois tout débité sous les hangars, la pierre toute tirée dans la carrière. Je n'ai pas voulu dire cela aux jeunes gens. J'aurais souhaité qu'ils fussent plus humbles et qu'au lieu d'attendre mes dons et mes soins comme une chose qui lui est due, Tonino me priât un peu ou me montra quelques désirs. Il n'a pas jugé à propos de le faire. Il a eu l'air de me dire que, du moment qu'il possédait une jeune et jolie femme bien éprise de lui, il n'avait plus besoin de rien sur la terre et que je ne pouvais rien ajouter à son bonheur. Il a évité de me parler de ses projets. Compte-t-il vendre la laiterie pour s'installer plus loin de nous ? Et si j'y fais de la dépense pour qu'il y soit bien, ne me dira-t-il pas que c'est inutile ?
Allons toujours voir, répondis-je. Quelles dépenses on aurait à faire dans tous les cas pour entretenir cette ferme. Nous consulterons ensuite Tonino.
Comment n'êtes-vous pas au courant de cela ?
Me demanda Félicie en se dirigeant avec moi vers la laiterie, qui était à 1 heure de chemin dans la montagne.
N'allez-vous jamais vous promener par là ?
Rarement, le temps me manque. L'ouvrage d'en bas absorbe toutes mes journées, vous le savez bien. D'ailleurs, ceci rentre dans la vie pastorale, dont Jean ne s'occupait pas et faisait bien de ne pas s'occuper. Vous suffisiez à cette besogne, à laquelle vous vous entendez merveilleusement.
La laiterie était fort belle, et le terrain environnant, de première qualité en pâturage, constituait un don assez considérable. Comme j'en faisais avec satisfaction la remarque,
« Peut-être trouvez-vous, me dit Félicie, que j'ai fait la part bien large à Tonino. »
« Non, je n'y trouve rien de trop. Les époux sont jeunes, ils auront des enfants. »«
Oui, ils en auront, répondit-elle. Ils sont nés heureux, ils les conserveront. »
Je vis une larme couler sur sa joue. C'était la première fois que devant moi elle pleurait sa fille. Jamais elle ne m'en avait parlé qu'avec une douleur sombre. Et comme elle s'efforçait de me cacher cette larme,
« Pleurez, pleurez, lui dis-je. Soyez femme, soyez mère. Je vous aime mieux ainsi que tendue et irritée.
Mais ce souvenir qui me brise, ne le détestez-vous pas ?
Non. Quand vous pleurez, je ne déteste rien dans le passé. Les larmes effacent tout, et la vraie douleur se fait toujours respecter. »
Elle essuya ses yeux avec ma main et la baisa. Puis elle attacha sur moi
ce regard clair et profond où l'énergie et la passion de son âme s'exprimaient d'une façon victorieuse quand elle se livrait. « J'ai eu deux désespoirs dans ma vie, » dit-elle, « la mort de mon enfant et celle de mon frère. Le jour où vous m'aimerez comme je vous aime, je les oublierai. »
« Pourquoi oublier ?» lui dis-je.
« La douleur est saine, ô belles âmes, et j'aime mieux partager la vôtre que de l'effacer. Vous me tiendrez par la tendresse encore plus que par l'énergie. Soyez-en sûre, je ne demande qu'à vous sentir faible pour me dévouer à mon tour. » Elle fut tout à coup ranimée, cessa de protester intérieurement contre le témoignage de mon affection et s'occupa de la propriété de Tonino avec ardeur, presque avec gaieté. Elle voulait tout abattre pour tout reconstruire et faisait des plans sur le sable du chemin avec le bout d'une branche. J'admirais son intelligence, son entente des détails, la promptitude de son coup d'œil. J'établissais ses comptes à mesure qu'elle développait ses plans. Quand j'eus atteint un certain chiffre, « Non, je n'irai pas jusque-là, » dit-elle. « Ce serait trop cher, vous me gronderiez. »«
Jamais, » répondis-je.
« Vous avez de l'ordre. Vous aurez toujours le moyen d'être généreuse. »«
Mais c'est votre fortune que je dépense là, monsieur Sylvestre. » »«
Non, c'est la vôtre. Moi, je n'en ai pas et n'en veux jamais avoir. Nous nous marions séparés de biens, comme cela doit être quand l'un apporte tout et l'autre rien. »
« Pourquoi faut-il que cela soit ?»
Et comme j'hésitais un peu à répondre, elle s'écria. « Ah oui, je comprends. Vous ne voulez pas qu'on croie que vous épousez une fille déchue pour vous enrichir. »
« Je n'y songeais pas, » lui dis-je.
« Mais puisque vous le prenez ainsi, j'accepte la supposition. Je veux qu'on sache que je vous épouse parce que je vous aime. » Elle fut ravie de ma réponse et se remit à faire ses plans, tout en causant avec le fermier et en réglant l'indemnité à lui donner. Nous en étions là. Le soleil baissait, lorsque Tonino et Vanina se trouvèrent tout à coup à quelques pas devant nous sur le sentier.
« Ah, voyez !» s'écria Félicie. « Les voici déjà. Ils viennent regarder leur domaine. Ils ne sont pas si enivrés que vous disiez. Ils pensent déjà au lendemain. »
« Ils sont dans le vrai. » Dans la nature, ils songent au nid tout de suite, pendant la chanson d'amour et de printemps.
« Comment ? Vous êtes là, cousine ?»
dit Tonino tout surpris en doublant le pas.
« Oui, » répondit-elle avec douceur. « Je suis venue préparer ton nid, comme dit monsieur Sylvestre. Est-ce ici que tu veux demeurer ?»«
Oui, certes, si j'ai le moyen de l'arranger quand le fermier sortira. »
« Le fermier sort demain, et demain on commence les travaux. Regarde le plan avant que la brise du soir l'efface. Voici votre chambre, très grande, pour contenir les berceaux et les petits lits. Voici la salle pour causer, manger, faire de la musique. Voici les tables doublées, séparées en trois pour les élèves des deux âges et les mères. Voici le grenier à fourrage, le séchoir, le rucher, la fontaine, etc.
Mais c'est un rêve ! S'écria Tonino. Il me faudra 20 ans de travail pour payer tout cela.
Vous ne paierez rien, lui dis-je. C'est votre cadeau de noces en sus de la dot. Tonino eut un beau mouvement très spontané, improvisation de l'intelligence artiste ou cri sincère du cœur.
Mère ! S'écria-t-il en tombant aux genoux de Félicie. « Tu m'aimes donc encore ?»
Elle fut vaincue et l'embrassa sans réserve ni méfiance. « Si tu pouvais redevenir sincère et bon comme jadis, je t'aimerais comme jadis, » lui dit-elle. « Aimez-moi comme jadis, » reprit-il, « car me voilà guérie de mes folies et naïf comme à 12 ans. C'est à elle que je le dois. » ajouta-t-il en montrant Vanina. « J'avais encore du dépit ce matin. Elle m'a grondé. Elle m'a dit que j'étais injuste et ingrat. J'ai senti qu'elle avait raison. Je me suis repenti. et si nous nous trouvons ici, c'est que nous étions en chemin pour aller vous demander pardon. »
Dès ce moment, le calme revint dans la famille. Tonino ne fut plus taquin, Félicie ne fut plus sombre. Vanina, douce et affectueuse, semblait être le trait d'union entre eux. Il y eut comme une convention tacite, moyennant laquelle les jeunes époux n'habiteraient pas notre domicile avant de pouvoir prendre possession du leur. Je le regrettais, je ne voyais pas sur ce chapitre comme Félicie. L'amour consacré me paraissait chose trop sérieuse et trop sainte pour que notre maison en deuil en fût profanée. Félicie ne s'expliquait pas, pour ne point se trouver en désaccord avec moi. Mais Tonino me disait tout bas, « Laissez-moi faire ainsi. Je sais que la vue de nos amours blesserait sa religion fraternelle. C'est assez puéril, car il n'y aura pas de raison pour admettre dans 2 ou 3 mois ce que l'on interdit aujourd'hui, à moins que le chagrin ne doive durer tout juste 1 an, tant que durent les vêtements noirs, et finir juste le jour où ils sont usés. Enfin, c'est l'idée de ma cousine, et il faut la respecter. Elle me souffrirait bien chez elle avec ma femme, elle serait bonne tout de même, mais quelque chose la froisserait au fond du cœur, et je ne veux plus lui faire de peine. » En attendant qu'il s'installât au Vervalt, Tonino emmena sa femme faire une excursion. Félicie le chargea d'aller donner un coup d'œil à ses propriétés dans la vallée du Rhône. Il en profita pour parcourir toute la Suisse et fut absent 3 mois.